En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé, en partenariat avec la Société asiatique et l'Institut national des langues et civilisations orientales, le 11 et le 12 janvier 2013, un colloque intitulé « Voir et concevoir la couleur en Asie ». Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention de Madame Vasundhara Filiosa de la Société asiatique. Elle a intitulé sa communication « Les couleurs des dieux hindous d'après les peintures et les textes ».
Le mot « banna » en Canada, langue parlée et officielle de l'État du Karnataka, sud de l'Inde, est dérivé du mot sanskrit « varna » signifiant la couleur. La langue Canada, bien qu'elle appartienne à la famille des langues dravidiennes du sud de l'Inde, est très fortement influencée par le sanskrit. Des ouvrages littéraires sont calqués sur des modèles de sanskrit et ils suivent des mêmes règles de prosodie sanskrite et en ajoutant d'autres couleurs propres à cette langue. En ce qui concerne les couleurs, non seulement des textes sanskrits, mais aussi des données locales sont ajoutées. À propos du clair de lune, on dit qu'il est si pur qu'on dirait que du lait est répandu ou déversé partout. Un autre exemple, un poète du XXe siècle décrit l'obscurité de la nuit. Une nuit, il est allé à la chasse dans la forêt avec un ami. La nuit était froide et noire. Son ami, pour se chauffer, a voulu boire une gorgée de café. Mais la nuit était si obscure que le liquide, ne trouvant pas son chemin en entrant dans le shvasanala, traché, le fit tousser si fort que le silence de la forêt fut perturbé. Une sainte poétesse, Shivaïte, du XIIe siècle, à Kamahadevi, en parlant de la grâce du Seigneur, dit dans un de ses vachanas les paroles « Kaya karane kandidarenu, kaya mirane minchidarenu, antaranga shuddhiyada balika, Channamallikarjuna valida kaya egidarenaya. » Je vous donne la traduction, ça c'était en Canada, du XIIe siècle. Qu'importe si le corps est noirci comme le noir, qu'importe si le corps est blanchi comme l'éclair, que l'intérieur est purifié, de quelle importance est la couleur du corps quand Channamallikarjuna l'aime. Channamallikarjuna, c'est le nom de Shiva et c'était la dieu d'élection de cette sainte. Alors, elle compare la couleur noire simplement au noir et le blanc à l'éclat de l'éclair. Les textes en parlant des couleurs donnent des nuances. Pour l'illustration de cette communication, nous avons choisi seulement un texte. Parce que déjà, Mme Edith Parly, elle a parlé de Vishnu Dharmottara. Heureusement, je ne l'ai pas choisi ça aussi. Donc, Manasolasa. J'ai choisi Manasolasa, le plaisir de l'esprit. Et ce texte est connu aussi sous un autre nom, Abhilishitartha Chintamani, c'est-à-dire le joyau donateur de l'objet désiré. Alors, c'est un ouvrage de nos poètes du roi Someshwara III de la dynastie Chalukya tardive. Il a régné sur Karnataka au XIIe siècle. Et nous avons choisi ce texte du Karnataka, mais écrit en sanskrit. Alors, cet ouvrage est divisé en cinq sections. C'est réparti en cinq sections. Et chaque section est encore divisée en 20 chapitres, on peut dire chapitres, une vingtaine. Alors, il l'appelle Vimshati, vingtaine. Et dans la troisième vingtaine, que la partie de qui nous intéresse, c'est le premier chapitre de premier chapitre de troisième vingtaine, ça commence, c'est intitulé Grohopabhoga, jouissance de la maison. Excusez-moi maintenant de ma prononciation. En effet, il s'agit de la palais royal. Alors, le texte commence avec la choix du site, l'orientation de l'édifice et la construction de la choix des matériaux pour la construction, etc. Et aussi, il parle de vastu puja, c'est-à-dire le culte du lieu. Ça, tous ces parties, ça ne nous intéresse pas. Donc, une fois que j'arrive directement au sujet, une fois que le palais est construit, le palais est prêt, il faut la décorer. Et pour la décoration, le roi, il prescrit certaines peintures. Et pour ça aussi, il commence avec la préparation du mur. Et comment il faut préparer le mur? Alors, cette partie, c'est un peu technique, peut-être ça concerne pas directement avec la couleur, mais je crois que c'est pas mal, si je vous dis quelques, je vous donne quelques renseignements là-dessus. Il parle d'un Vajralepa. Souvent, on voit ce mot Vajralepa. Vajralepa, c'est une sorte de produit visqueux qu'on obtient en faisant bouillir la peau neuve d'une buffelesse. Alors, c'est un produit visqueux, et ensuite, il faut la faire chauffer. Et après, une fois que c'est... il faut la faire sécher, pas chauffer, excusez-moi de ma prononciation, sécher. Et une fois que c'est sec, après, il faut la mélanger, on le mélange ça avec la poudre, la terre blanche, c'est le kavana. Et cet enduit qu'on doit enduire sur le mur à peindre. Et il faut mettre trois fois, et ensuite... Il y a un autre produit qu'il parle, un produit très lisse, et ça, on le prépare avec la poudre de coquillage, mélangée avec le sucre en poudre, et Vajralepa, bien sûr, et la terre blanche. Avec ces produits-là, on obtient, avec toutes ces choses, on obtient un enduit très lisse. Et pour mettre cet enduit lisse sur le mur, il faut qu'il le fasse avec la main, pas avec des outils. Alors, une fois que c'est tout lisse, il faut penser à le peindre. Alors, même pour la peinture aussi, quand il va peindre, le roi donne la description de différentes sortes de pinceaux. Alors, les pinceaux, il donne 4 ou 5 variétés. Juste, je vous donne un pinceau, qui est très intéressant. Il dit que ce pinceau doit être préparé avec les poils de l'oreille d'un veau. Et c'est très précis, avec les poils d'un veau et pas de vache. Alors là, il doit prendre ses poils, et selon les cas, il faut les mettre sur les bâtons, sur le roseau, et attacher avec le cire. Alors là, il donne 3 sortes de pinceaux. Stula, Madhya et Sukshma. Stula, c'est gros, Madhya, moyen, et Sukshma, subtil, très délicat. Et avec ça qu'il faut le faire. Et aussi, il parle d'une sorte de craie préparée avec le riz bouilli et mélangé de kajala, c'est la poudre noire. Et avec ça, il faut qu'il trace les contours du dessin, et ensuite, il faut mettre les couleurs approprié à chaque image. Alors là aussi, il donne les couleurs, comment il faut la faire, etc. Et le roi, il parle de 4 couleurs, comme tout à l'heure on a parlé, 4 couleurs principales, le rouge, le noir, le jaune, le rouge, le blanc, le noir et le jaune. Alors même le blanc, quand il parle de différentes sortes de blanc. Il parle de couleur de coquillage, Shankar. Et ensuite, il dit aussi Gokshira. Parce que pourquoi dans les textes indiens, on parle souvent de Gokshira, le lait de vache? Parce qu'en Inde, il y a le lait de buffles, il y a des buffles aussi qui donnent du lait, le lait de buffles et le lait de vache. Le lait de buffles est très blanc, alors que le lait de vache, c'est un peu jaunâtre. Bon, peut-être que ça correspond au blanc qu'il y a d'ici, on ne sait pas. Mais c'est noir. Alors, souvent, dans les textes, on voit Gokshira et pas la lettre biflèse. Et dans les rouges aussi, il parle de différents rouges. Il parle de différents rouges, Darada, cinabre, Alaktaka, la laque rouge, et Gairika, hématite, ou Lohita, rouge du sang, etc. Et Haritala est une variété de colorant jaune, et Krishnavarna signifie la noire ou bleu noir. Alors, l'auteur aussi ne manque pas de donner les résultats des mélanges de couleurs. Alors, je ne donne pas toutes les couleurs, maintenant c'est très long la liste. Je vous donne juste une ou deux mélanges. Si le Shankavarna, c'est-à-dire la poudre de coquillage, est mélangée avec le cinabre, on obtient la couleur du lotus rouge. Mais si la même poudre de coquillage est mélangée, amalgamée avec l'alaktaka, on a l'alak rouge, on a la rouge semblable à la couleur de la langue. Si la poudre de coquillage mélangée avec Gairika, l'hématite, alors là, on aura la couleur de mangue, mais bien sûr, la mangue mûre, pas la mangue verte. Et dans la peinture indienne, on a utilisé beaucoup de l'or. Alors là aussi, le roi, il parle de cette la purification de l'or avec l'or qu'on a trouvé dans les mines, l'or crude gold, l'état sauvage, et ensuite on prépare la poudre pour obtenir une poudre pure. Et une fois qu'on a obtenu la poudre de l'or pur, on le mélange toujours avec sa vajralepa et on met sur les sculptures, sur les peintures, où c'est nécessaire, la dorure, ou la dorure des vêtements, ou bien les bijoux, etc. Mais une fois que l'or est sec, la peinture est sec, il faut frotter cette partie dorée avec la défense de sanglier, pour que ça ait l'éclat de l'éclair. Et une fois que tout c'est fait, il part. Comment on change les... S'il vous plaît, vous savez là. Là, c'est ça. Bon, d'accord. Et une fois qu'il fait l'esquisse, il donne comment il faut faire l'esquisse, et ensuite il faut mettre les couleurs, etc. Et une fois que les couleurs sont mises sur le tableau, il faut accentuer les contours. Alors là, pour le contour, il faut d'abord, par exemple, les jambes, etc. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a des jambes, il y a la jambe. Vous voyez, là, il faut tracer une ligne noire et ensuite, avec la alakta, c'est-à-dire un trait rouge, très délicatement, il faut le faire pour faire sortir les membres du corps ou des bijoux, des vêtements, etc. Alors, pour illustrer cette communication, nous avons choisi un exemple de la danse de Nataraja, la danse de Shiva. Pardon. Et je vous présente, pour cette communication, pas l'école de n'importe quel pays, mais du Karnataka, et plus particulièrement de l'école de Mysore, qui n'est pas connue ici. Alors là, vous avez au centre, il y a Shiva dansant. J'ai perdu là. Bon. Il y a au centre, vous avez Shiva dansant. Il a quatre bras et ce qui la souris ça perd tout le temps. Ah oui. Ah oui, d'accord, merci. Comment ça marche? Voilà. Voilà, il y a Shiva dans son, et il a quatre bras. Bon, genre, je ne vous dis pas toutes sortes de choses enfantines. Et il tient la damaru, un tambourin, une sorte de diabolo, au centre de laquelle il y a une bille attachée au fil, et ça, c'est ici. Et quand Shiva agite la damaru, la bille, ça va d'un côté à l'autre et ça fait du bruit. Ça fait une sorte de boulou 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 boulou. Et on dit que c'est avec ce bruit, en entendant ce bruit, que Shiva a révélé les sutras de grammaire à Panini, la première grammairien sanskrit. Alors, vous voyez, on sait qu'il est en train d'agiter le damaru. On n'entend pas le bruit, mais on sait, parce qu'il y a la ligne noire. Il y a un demi-cercle noir. Et de l'autre main, il tient la cloche. Ce sont les... Et il y a la déesse assise là. Elle est peinte en verte. Tout à l'heure, on avait vu la déesse peinte en verte aussi. Et elle est sur un trône en or, incrusté de pierres précieuses et décoré avec des perles. Vous voyez des perles ici. Alors, c'est la préparation de l'or que je vous ai parlé. Je viens de vous parler. Et de l'autre côté, ici, à la gauche de Shiva, vous avez Vishnu et Brahma. Vishnu et Brahma à côté de... Voilà, Vishnu et Brahma. Et Vishnu, il est peint en noir, en bleu, parce que Vishnu, il est... Et Brahma, avec ses quatre têtes, on sait qu'il est Brahma. Et Vishnu, il tient le mridanga, un instrument de percussion, pour la danse pour tenir le rythme à la danse de Shiva. Et ici, vous avez Brahma, qui tient les cymbales dans ses deux mains. Et ça aussi, sans les cymbales, le danseur, il ne peut pas exécuter sa danse. Alors, c'est nécessaire pour la danse. Et là, il y a un autre personnage tenant la flûte, et sur son front, vous voyez, il y a un trait rouge, kunkuma, on appelle kunkuma, le trait rouge, sur son front. Et les traits, et en plus, c'est vertical. Quand c'est vertical, le trait rouge est vertical, ça veut dire que c'est un dieu vishnuïte. Et généralement, Krishna, il tient la flûte. Donc, on peut l'identifier avec Krishna. Et il y a Saraswati, l'épouse de Brahma, qui joue de la vina. Elle accompagne Shiva dans sa danse. Et on sait que c'est Saraswati parce qu'elle tient le livre, le manuscrit de cette main et le stylet ici. Et à côté, il y a Lakshmi, l'épouse de Vishnu. Elle tient de lotus, donc on sait que c'est Lakshmi. Et juste au troisième plan de même côté, voilà, ici, c'est Shanmukha, Dieu le fils de Shiva. Il a ce Dieu, il a six têtes. Et en face de lui, il y a Nandikeshwara, c'est pas Nandi. Il y a une confusion entre Nandi et Nandikeshwara. Nandikeshwara, il est toujours représenté avec sa forme humaine et la tête d'un taureau. Et devant lui, il y a le Bringhi avec trois jambes. Et Bringhi est un ascète, pour ça qu'il a des cheveux nattés roux. Et je reviens encore sur Shiva, sur la position de Shiva. On sait qu'il est vêtu de peau de tigre. Alors là, on aperçoit là, et pour être sûr que c'est la peau de tigre, l'artiste il a même donné la queue de tigre. Et par-dessus, ses hanches sont couvertes de uttariya, c'est-à-dire un tissu de dessus. Bien sûr, il est orné d'or. Et Chalukya Someshwara, il donne la description de Shiva de cette façon. Il a dit que Shiva, il va avoir la tiare ornée de croissant de lune. Mais dans la danse de Shiva, souvent ses cheveux sont échevelés. Mais comme le roi il a prescrit qu'il faut avoir un chignon, alors ils ont quand même donné un petit chignon avec la croissant de lune et Shiva il danse. Alors là, dans la position des jambes, des pieds de Shiva, dont on l'appelle Bhujangatrasita. Ça veut dire pieds levés, effrayés par la présence de serpent. Alors, tout à l'heure, vous avez vu dans la Tamil Nadu, le pied était plus élevé. Mais ça, c'est seulement dans la Tamil Nadu qu'on va. Dans la Karnataka, on ne va jamais dans la danse de Shiva, pieds aussi élevés que dans le pays tamoul. C'est toujours les pieds élevés à cette hauteur-là. Et d'ailleurs, dans le Natya Shastra, on donne la description de Bhujangatrasita de cette façon. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres. Il y a des Chauri-Bearer, c'est le mot anglais. Chasse-mouche, qui tiennent les chasse-mouches, etc. Il y a d'autres dieux. Il y a beaucoup d'ascètes. Les ascètes sont identifiables parce qu'à cause de leurs cheveux roux. Et en haut, j'arrive pas à le faire. Et en haut, vous voyez, le ciel est peint en bleu. Et au centre du ciel, il y a Rambha, les Apsara, Rambha, Urvashi, etc. Elles sont ébahies en voyant la danse divine de Shiva. Elles sont au centre là. Et il y a aux deux côtés, il y a des Ganas qui déversent des fleurs sur leur Seigneur en signe d'adoration. Et on sait que c'est la danse. Il y a deux sortes de danses. Il y a même trois sortes de danses de Shiva. C'est la Pralaya Tandava, c'est la danse cosmique qu'il a fait vers la fin du monde. Et Ananda Tandava, quand il est avec la présence de la déesse. Et il y a Sandhya Tandava, la danse du soir. Il fait une danse le soir. Alors ici, on sait que c'est la danse du soir. Comment on peut l'identifier? Parce qu'il y a le ciel. J'arrive pas loin. Il y a le ciel. Pourquoi ça ne va pas jusqu'à là? Il y a en haut. Hein?
Non, mais c'est vrai qu'il y a un faux contact.
Ah oui. Non,
c'était. Il n'y a plus de pile.
Voilà. J'ai retrouvé.
Ah, oui, c'est ça le danger.
Oui. Ah, c'est parti. Bon, on va. Non. On va le ciel en haut et à gauche du ciel, il y a un cercle rouge et à l'autre côté, vous voyez un cercle blanc. Alors, le cercle rouge, ça signifie le soleil couchant et de l'autre côté, c'est la lune levant. C'est la lune est en train de sortir de la mer, et de l'autre côté, parce que le soleil est du côté ouest, donc il est en train de se coucher. Donc, c'est la danse qu'il est en train d'exécuter, c'est la danse du soir. Bon, je crois que je parlais sur l'autre. J'ai beaucoup de choses à dire, mais. Ah, oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce personnage entre Brahma et Vishnu et un personnage avec le vermilion. Si on l'identifie avec Krishna, il est toujours bleu dans la peinture. Mais dans l'école de Mysore, il n'est pas toujours bleu, et parfois il est rouge et parfois il est teinté de bleu, rouge-bleu. Voilà, vous avez un exemple. Ah, super. Est-ce qu'on va bien? On voit Krishna dans son palais avec une gopie, une femme, et il est teinté de rouge-bleu. C'est toujours l'école de Mysore et dans le temple de Varaha à Mysore même. C'est du 19e siècle, 18-19e siècle. Oh. Oui, ici, on va entre Shanmukha et Nandikeshwara, la tête de bœuf, il y a un personnage en vert. Il a le visage d'un singe. Peut-être c'est Hanuman, parce qu'après la bataille de Sri Lanka, de Lanka après la conquête de leur nord, après la libération de Sita, Hanuman devient le dévot de Shiva. C'est pour ça qu'il y a la présentation de ça. Mais Hanuman, il n'est pas représenté en vert partout. Mais dans l'école de Mysore, on a trouvé un autre exemple aussi. Hanuman, il est représenté en vert. Il y a Sita qui est assise à l'Ashokavana. Et Hanuman, il est venu là pour lui donner la bague, bague de Rama. Voilà, c'est un rapport avec. Voilà, je crois que je peux aller sur l'autre. Et le roi Chalukya, il donne l'image de Shankara Narayana. Généralement, on l'identifie avec Harihara, mais plus exactement, il faut le dire, Shankara Narayana, parce que d'un côté, du côté gauche, il y a Shankara, c'est-à-dire Shiva, et de l'autre côté, Vishnu. Il faut l'appeler plutôt Shankara Narayana. Et il a donné la description de Shankara Narayana de telle façon, ça convient tout à fait à cette image, c'est à l'Epakshi, dans le temple de Virabhadra à l'Epakshi du XVIe siècle. Mais malheureusement, cette image est tellement abîmée et que je ne m'attarderai pas beaucoup sur cette image. Il y a une autre belle image de Vishnu Trivikrama. Alors là, vous voyez Vishnu avec une jambe par terre et une autre jambe, la jambe droite et vers le haut. Ça, c'est l'histoire qui est en rapport avec Vishnu quand il est allé voir le roi démon Bali et il mendiait 3 pas de terre. Une fois que le roi, il lui a donné, il a promis, il lui a donné les 3 pas de terre, et en ce moment-là, Vishnu lui montre. D'abord, il est allé sous forme d'un petit nain. Alors, le roi, il ne l'a pas compris et il a promis de lui donner 3 pas de terre parce qu'il était en train de faire un sacrifice. Alors, au moment du sacrifice, si quelqu'un vient demander quelque chose, il faut le donner tout de suite, il faut l'accorder tout de suite. Sinon, il n'aura pas le fruit de le sacrifice. Alors, il accepte de lui donner 3 pas de terre, et aussitôt qu'il a eu cette donation, le Dieu il lui montre sa forme universelle. Et en ce moment-là, il prend la forme gigantesque. Avec un pas, il mesure la terre, avec l'autre pas, avec le pied droit, il mesure le ciel. Alors, on sait qu'il est allé en haut. Et là, en haut, il y a dans le cercle, vous voyez le mont Meru. Le mont Meru sort de l'océan de lait. Alors, au fond, il y a l'océan de lait, la mer de lait, et il y a le Meru, et vous savez, le ciel bleu. Et Vishnu, il est appelé Pitambari, porteur de vêtements jaunes. C'est pour ça qu'on a peint ici Vishnu. C'est justifié, Vishnu est vêtu de vêtements jaunes. Et il a une guirlande qui passe autour de son cou et descend jusqu'aux chevilles. Alors on l'appelle cette guirlande Vanamala. C'est fait avec les feuilles de basilic. On l'appelle Vaijantihara aussi, c'est la même chose. Vaijantihara ou Vanamala. Vaijantihara, souvent c'est une jointe, et Vanamala, c'est pas jointe. C'est fait avec des feuilles de basilic. Alors, il tient dans les deux mains, bien sûr, conque et disque pour identifier ses Vishnu. Et il porte un Uttariya bleu pour faire sortir les teintes, différentes teintes. Bon, il porte toujours toutes sortes de bijoux, les tiares, etc., qui sont prescrits dans les textes. Et entre autres, il porte le keyura, c'est-à-dire un ornement au-dessus des bras, au-dessus de nos coudes. Mais je ne peux pas terminer mon exposé sans parler de Hampi. Hampi était la capitale de l'empire de Vijayanagara, l'empire de Karnataka, qui est maintenant connu sous le faux nom de l'empire de Vijayanagara. En fait, dans les inscriptions, dans les textes littéraires de cette époque, on sait que c'était appelé Karnataka, Karnataka Samrajya, l'empire de Karnataka, et le nom de la capitale était Vijayanagara. Alors, à Vijayanagara, il y a plusieurs temples. Nous avons compté à peu près 500 temples petits, et les grands, il y a une douzaine de grands temples, et parmi lesquels, le temple de Virupaksha était le principal. Le temple de Virupaksha, c'est le Shiva, c'est le nom de Shiva. Virupaksha, ça veut dire l'œil anormal. Comme Shiva, il a l'œil frontal, on l'appelle Virupaksha. Alors, en 1510, il y a un grand roi qui monte sur le trône, et ce grand roi Krishnaraya, il monte sur le trône, et pour le commémorer son accession au trône, il a fait ajouter un grand mandapa à ce temple de Virupaksha, un mandapa hypostyle, et à l'époque de son demi-frère, probablement, le plafond était couvert de ces scènes religieuses. Vous voyez ici, au premier plan, en haut, il y a le Kama qui vient réveiller la sèche, de la déranger ou réveiller la sèche de Shiva. Au centre, il y a le Kama est sur son char et à côté, il y a Shiva qui est en train de faire la tapas sur la et le Kama, il va le déranger. Et ensuite, ça vient pas. Non. La souris. Non. Ah oui. Voilà.
Sur cette partie-là, ça fonctionne.
Ah oui. Ah. Là, c'est parti. Ah oui, voilà. Voilà, il y a Kama, et bien Shiva, il fait la 16. Et ici, nous avons un autre exemple de Shiva, Tripura Samhara. Il est en train de détruire les trois mondes. Alors, c'était tout à l'heure, M. Thierry Zéphir, il a montré cette histoire. Et ici, c'est montré un peu différemment. Et là, les couleurs sont, comment on peut dire, les couleurs. Il y a toutes sortes de couleurs, mais le plafond est tellement délavé depuis le XVIe siècle. Et dans les années 1980, c'était repeint, c'était restauré, mais avec des couleurs chimiques. Donc les couleurs sont complètement délavées maintenant. Parce que vous voyez, il y a le perroquet qui devait être peint en vert, mais tous sont blancs. Il y a l'incarnation des 10 incarnations de Vishnu aussi, mais les couleurs sont tellement sombres que je ne peux pas m'attarder sur le dessus. Et là, vous voyez Vishnu avec sa parèdre, et de l'autre côté, il y a Shiva. Avec ses... Alors, Chalukya Someshwara, il a prescrit comment il faut colorier les images. Quand c'est les parties fortes, il faut les mettre les couleurs, brillantes. Et quand c'est les parties basses, les parties minces ou basses, il faut mettre des couleurs sombres. C'est la dégradation de couleurs qu'il parle. Alors là, nous avons l'exemple de ces trois dieux. Et ici, on passe à Shiva, toujours Shiva au centre. Et ici, on va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Merci beaucoup, madame.
Excusez-moi, s'il y avait un accident d'homme. Et à propos des perroquets blancs, on sait qu'à Hampi Vijayanagara, les temples étaient peints, non seulement les peintures, mais aussi les sculptures ont été peintes. Alors, à propos de ça, je crois que j'ai encore quelques minutes, non?
Il y a déjà 5 minutes de plus. c'est ça le problème. Bon,
excusez-moi là. Par exemple, dans le plafond du nord, dans l'autre Swamandapa du temps, juste conclusion, 2 minutes. Par exemple, dans le plafond du Dolot Swamandapa du temple de Vitala, au centre, il y a un dôme peu élevé, taillé dans un seul bloc de pierre. Au centre du dôme est un bouton de lotus retombant, tenu par des perroquets avec leur bec. Là, on voit ces oiseaux peints en vert et avec le bec rouge. Nous avons un très bon témoignage de Paes, le marchand des chevaux portugais, qui est allé dans la capitale de Hampi Vijayanagar vers 1520. Paes donne une bonne description d'un temple à Hampi Vijayanagar. À notre avis, c'est le temple de Vitala. Je vais vous le montrer. They had begun, excusez-moi, je lirai en anglais, parce que ce que Paes a écrit, c'était traduit en anglais. They had begun to paint this chamber, and they told us that it had to be finer than all others, and that it was to be plated with gold. Paes plus loin ajoute, between these images and pillars runs a design of foliage, like plates, all gilt with the rivers of these leaves in red and blue. The images that are on the pillars are stags and other animals. They are painted in colors with the pink on their faces. Alors, malheureusement, je n'ai pas de photos. C'est fini. Malheureusement, je n'ai pas apporté des photos de ça. Mais quand on va à Hampi, si vous n'êtes pas allé encore à Hampi, je vous conseille d'aller à Hampi, dans le temple de Vitala, il y a Mandapa à sud-est. Alors là, il y a des peintures. Sur les vies, on voit encore la trace des peintures, et aussi, tel que Paes avait décrit. Et aussi, il y a un char dans la cour du temple, et sous l'auvent, et on voit encore des peintures intactes. Alors, je vous conseille d'aller faire ça. Donc, en guise de conclusion, je vous dirai, effectivement, dans le temple de Vitala, sur les visages de certaines sculptures, de pavillons du sud-est, trace de peintures encore visibles. Bon. Les figures taillées sous le mouvement célèbre. Il est dommage que nous n'ayons pas beaucoup d'exemples de ce genre pour donner davantage l'information sur les couleurs, sujet de ce colloque. Les temples étaient peints, mais nous n'avons pas beaucoup d'exemples. S'il y en avait, ça serait enrichi beaucoup maintenant, à ce colloque. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous remercie de votre patience. Merci.
Vous venez d'entendre la communication de Madame Vansudhara Filiosa, intitulée « Les couleurs des dieux hindous d'après les peintures et les textes » dans le cadre du colloque de l'Académie des inscriptions et belles-lettres « Voir et concevoir la couleur en Asie » qui s'est déroulé en janvier 2013. Retrouvez la suite des interventions de ce colloque sur Canal Académie.